Europe 1. De 9h à 10h le dimanche, c'est cette arrivée demain avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour André Grimaldi.
Bonjour.
Professeur de médecine, ancien patron de la diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, vous signez avec Frédéric Pierru et une vingtaine d'experts et de professionnels un livre « Santé urgence » chez Odile Jacob. C'est un vaste état des lieux de notre système de santé dans tous les domaines avec des propositions de réforme. Livre très utile alors que commencent demain les deux mois de consultation qui doivent déboucher sur le plan massif promis par Emmanuel Macron. Avant de rentrer dans le détail, deux mots d'histoire. J'ai été très intéressé par le chapitre que Didier Tabuteau consacre à la grande réforme hospitalière du XXe siècle, celle de Robert Debré, en 1958, qui crée les CHU, les centres hospitalo-universitaires, et instaure le travail à temps plein des médecins hospitaliers. C'est une réforme de cette ampleur qu'il faudrait aujourd'hui, selon vous ?
Oui, au moins cette ampleur, parce que à l'époque, c'est la réforme donc des grands hôpitaux pour qu'ils se modernisent, avec commencement des droits des malades, et puis pour qu'on rattrape notre retard et que la biologie et la recherche deviennent des moteurs du progrès. C'est une réforme aussi importante qu'il faudrait faire, parce que la réforme doit être de l'ensemble du système de santé, et au fond, c'est un peu l'orientation qu'a donné le président de la République lorsqu'il a dit à Mulhouse, on s'est trompé en quelque sorte, il y a des biens comme la santé qui doivent échapper aux lois du marché. La santé est gratuite, l'État-providence, c'est pas une charge, c'est un bien collectif. Alors, il faut traduire ça dans les actes. Or, voilà, le problème, c'est que dans la convocation de ce Ségur, le ministre, lui, c'est plutôt on continue en accélérant. Il faut qu'on sorte un peu plus rapidement du tout ces deux A, mais enfin, on voit pas où est le grand changement. Là, c'est une réorientation qu'il faut faire de l'ampleur de celle de 58 et qui a été faite en 58 par une alliance entre les professionnels de santé et le professeur Debré et la haute administration qui ont travaillé pour changer le système et en faire un bien public. Hein. Alors il y avait une concession que Robert Debré a acceptée, qui était le privé à l'hôpital, mais pour lui c'est transitoire, c'est l'affaire d'une génération. Hein. Un bien commun, c'est que tous les Français peuvent avoir accès à des soins remboursés par la sécurité sociale.
Mais vous soulignez, André Grimaldi, les deux limites de cette réforme. La prise en charge des maladies chroniques qui se sont depuis développées et qui pèsent de plus en plus lourd sur le système. Et la coordination avec la médecine de ville, ce sont deux des points sur lesquels vous pensez qu'il faut bouger, évoluer pour
l'hôpital.
Absolument.
Cette réforme de 58 a eu un inconvénient. Ça a été la coupure avec la ville. Et d'autre part... Et là, Robert Debré s'en était aperçu. On était centré sur la biologie, la recherche, et on avait négligé et la médecine de premier recours, c'est notamment la médecine générale, et les maladies chroniques. Au fond, il y a deux épidémies. Hein. Il y a l'épidémie du Covid et les épidémies infectieuses, pour lesquelles on a vu que notre système est mal adapté. Parce que la tarification d'activité, ça ne va pas du tout pour le Covid. Hein. L'idée qu'il ne faut pas avoir de lits vides parce que ce n'est pas rentable, ça ne va pas du tout quand vous faites des urgences. Il faut évidemment avoir des lits vides quand on fait des urgences pour pouvoir accueillir les patients. Et puis, ce n'est pas adapté non plus aux maladies chroniques. Et dans les deux cas, c'est rapport entre la ville et l'hôpital qui est un problème central. Et puis, le mode de financement. Si vous dites paiement à l'acte pour les maladies chroniques et puis tarification à l'activité, et ben chacun fait mâcher sa machine. C'est comme disait un directeur d'un établissement privé. Il disait, moi, je ne suis pas là pour défendre la sécu. Je fais marcher les outils qu'on me donne. Je fais de l'activité. Donc, vous faites deux séjours au lieu d'un. Vous voulez occuper des lits en permanence. Enfin, vous êtes dans une logique commerciale qui est totalement inadaptée et aux urgences et aux maladies chroniques. Finalement, on a un système qui est adapté aux maladies aiguës bénignes en ville, aux gestes techniques simples et à la médecine technicienne. C'est-à-dire l'opération du canal carpien, la cataracte ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, qui au fond est un progrès, et pour lequel notre système est adapté. Mais il est totalement inadapté aux épidémies, et pas seulement les grandes. Hein. Rappelez-vous...
Sur les médecins libéraux, oui. Vous appelez à changer le partage du travail entre médecine de ville et hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que le grand principe de finalement des hôpitaux et de la réforme de 58, c'était de travailler en équipe. Or, pour des raisons historiques de la médecine libérale, il y a eu un grand retard à la médecine de ville. Actuellement, on s'y met, c'est-à-dire que les communautés et les professionnels de territoire, et là, le Covid a accéléré la nécessité de collaboration dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, entre médecins et infirmières, dans les centres de santé, historiquement. Le travail collectif est indispensable, y compris si vous voulez faire des équipes mobiles pour le Covid et vous mobilisez, vous ne pouvez pas le faire seul dans votre cabinet. Si vous voulez recevoir des urgences, c'est très difficile à faire seul dans son cabinet. Bon, donc tout ça nécessite, alors évidemment, il faut une coopération. Qui fait quoi ? Pas la concurrence. Hein. Il ne faut pas que l'hôpital prenne la place de la ville, mais si les malades viennent aux urgences faute d'avoir trouvé une réponse en ville, évidemment, nous voilà dans un embouteillage qu'on connaissait. Hein.
Est-ce qu'il faut, par exemple, rétablir...
Oui.
Est-ce qu'il faut, par exemple, rétablir l'obligation de garde pour les médecins libéraux qui a été supprimée il y a une vingtaine d'années et qui a contribué, cette suppression, à encombrer considérablement les services d'urgence ? Enfin, la hausse exponentielle des admissions aux urgences a commencé à ce moment-là, à peu près. Hein.
Oui, vous avez raison, mais elle ne peut pas être instaurée individuellement. À l'époque, on pouvait dire que chaque médecin a son jour de garde. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des consultations, évidemment, c'est un travail d'équipe. Donc, les communautés de professionnels sur chaque territoire doivent avoir cette obligation de permanence des soins en rapport, en travaillant avec le service des urgences de l'hôpital, en disant « ce malade est plus grave, il va aux urgences, celui-là, par contre, on règle le problème ». Mais ça ne peut pas se faire seul dans son cabinet. Ça nécessite des maisons de garde qui travaillent, des organisations, de coopération pour réaliser ça. Alors, ça se met en place, mais tout doucement. Hein. Et entre-temps, on a eu une gestion drastique de l'hôpital, parce que depuis 2008, la crise, on a dit, le ministère du budget dit, il faut serrer. Et qu'est-ce qu'on sert ? Qu'est-ce qu'on peut serrer ? Eh bien, on baisse les tarifs de l'hôpital. On a demandé en 10 ans 8 milliards d'économies à l'hôpital. Alors que la ville, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Hein, donc la ville négocie, les syndicats négocient avec la sécurité sociale, finalement ils ont des dépassements de 600 millions, puis l'hôpital, on lui prend cet argent, donc on en est arrivé au bout. Hein, et là, les infirmières vont partir, enfin elles sont déjà parties en partie, hein, parce que avant la crise du Covid, à l'assistance publique, il manquait 800 infirmières, alors que les postes étaient présents. Hein, parce que comment voulez-vous gagner 1600 euros brut en début de carrière et habiter dans la région parisienne, c'est absolument impossible. Dans des conditions de travail dégradées, alors ça c'est l'urgence de l'urgence.
Ouais. Après, alors on va en parler.
Oui. Ouais.
On va en parler dans un instant. Les salaires, l'attractivité de l'hôpital, d'autres mesures, et puis évidemment le budget, l'argent qu'on met dans le système de santé. Vous restez avec nous, André Grimaldi. On poursuit après une pause.
Europe 1. La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, auteur avec d'autres de Santé Urgence chez Odile Jacob, à la veille du début du Ségur de la Santé, 7 semaines de consultation pour soigner l'hôpital. Par où commencer, André Grimaldi ? Vous en avez parlé il y a 2 minutes, par une hausse des salaires pour payer plus justement les soignants et pour rendre l'hôpital plus attractif. Je rappelle, vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs dizaines de milliers de postes vacants hein, aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire il y a d'abord un plan d'urgence, des mesures d'urgence, et à la limite, il n'y a même pas besoin d'un Ségur pour ça, pour restaurer la confiance. Et puis après, il y a une grande réforme à faire pour revenir aux principes, d'ailleurs, qui étaient ceux de 45-58, qui étaient la santé et le bien commun. Alors ce plan d'urgence, il comprend ce que vous avez dit, c'est-à-dire il faut se rapprocher de la moyenne de l'OCDE, on est en 28e position pour les salaires. Donc il faut un plan de rattrapage qui soit très significatif. Hein. Les infirmières et aides-soignantes des urgences demandaient 300 euros. Par mois. La différence avec la moyenne de l'OCDE, c'est 450, vous vous rendez compte. Il faut aussi que les conditions de travail soient rapidement améliorées. Alors, cette histoire de fermeture des listes est devenue un dogme. Hein, l'hôpital Nord de Paris, Bichat-Beaujon, c'est 30% de lits en moins. Bon, et on revoit ça quand c'est pareil. Partout c'est pareil. Vous vous rappelez Nancy, le directeur de l'ARS, qui disait on va fermer les lits et 500 personnels en moins. Donc si on regarde ces conditions de travail, il faut quand même savoir qu'en France, 5 ans après le diplôme d'État, un tiers des infirmières changent de métier. Donc, il y a urgence. On nous donnait comme modèle de l'hôpital du 21e siècle le nouvel Hôtel Dieu qui va comprendre une galerie marchande, des soins médicaux et des logements. Sous le prétexte qu'on faut mélanger l'hôpital dans la ville. Est-ce que c'est ça qu'a montré le Covid ? Est-ce que c'est ça l'hôpital du 21e siècle ? Donc ça, il y a un plan d'urgence. Il faut revenir sur ces plans de réduction drastique des lits, avec comme à l'époque, hein, le seul miroir, c'était la Suède. La Suède a 2 fois moins de lits que nous, parce qu'ils ont un autre système de santé. Et puis tout d'un coup, on regarde l'Allemagne, qui elle a 50% en lits de plus, et puis 2 ou 3 fois plus de lits de réanimation. Bon, ne regardons ni la Suède ni l'Allemagne, faisons ce que nous devons pour répondre aux besoins de santé de la population. Donc ça, c'est le plan d'urgence. Et puis après, c'est un grand plan de travail pour refonder le système de santé, comme l'a dit, mais enfin, entre les paroles et les actes, voilà, on attend.
Oui, comme l'a dit, y compris l'ancien ministre Agnès Buzyn, qui disait aussi, on va cesser de considérer l'hôpital comme une entreprise, finir avec la tarification à l'acte. Vous espérez qu'on y arrivera cette fois?
Ça, je ne sais pas, parce que Marisol Touraine l'avait dit, ne l'a pas fait, Agnès Buzyn n'a rien fait, parce que Agnès Buzyn, son problème avec l'hôpital, c'est-à-dire qu'elle a mis un plan, le plan Ma Santé 2022, il s'adresse fondamentalement à la ville. Et il dit qu'il faut aider la ville à s'organiser avec des communautés professionnelles sur les territoires, avec la permanence des soins dont vous parliez, avec le maintien à domicile des personnes âgées, etc. Tout ça était bien, mais pas chiffré dans le temps, pas vraiment financé. Et pour l'hôpital, il n'y avait rien, parce que l'idée, d'Agnès Buzyn, c'est « je suis une hospitalière ». Je vous comprends, moi aussi j'ai souffert, si j'étais avec vous, je signerais absolument tous vos textes, et puis rien. Ouais. Et par contre, le vrai ministre de la Santé, c'est ça que j'avais compris, c'était Gérald Darmanin, c'est le ministre du budget, c'est à Bercy. Et quand il dit, là je viens d'entendre votre information, et il faut qu'il y ait un intéressement financier dans les entreprises, des personnels, oui, peut-être dans les entreprises, dans l'hôpital, ça serait monstrueux.
Oui.
Faites marcher la machine, opérez, vous aurez un intérêt financier. Non, on n'a pas vu. On n'a pas dit intérêt à soigner le Covid, on a dit vous soignez le Covid, et tout le monde s'est mobilisé, sans dire attendez, moi je veux être payé à la pièce.
Donc, quelles sont vos suggestions, André Grimaldi, pour la gestion des hôpitaux? Est-ce qu'il faut redonner du pouvoir aux médecins, comme ça s'est fait pendant la crise du Covid, on l'a beaucoup entendu ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a trop de personnel administratif dans les hôpitaux? Je rappelle que la part de personnel non soignant représente environ un tiers des effectifs, et c'est plus que dans les hôpitaux comparables des pays voisins.
Non, là, vous avez raison, mais ça, on a le millefeuille bureaucratique à la française. On a rajouté 3 échelons. Donc il y en a 2 qui doivent sauter. C'est-à-dire, on a des pôles de gestion. Alors dans le même pôle, vous avez le service de néphrologie, la chirurgie et la maternité. Bon, ils gèrent quoi? Bon, donc on a rajouté des groupements hospitaliers, alors qui vont de 1 million de personnes dans le territoire à 200 000. Tout ça. Et à chaque fois, c'est des réunions, des secrétariats, des reportings, des rapports, etc. etc. Et puis, des normes à respecter, des procédures à suivre. Enfin bon, il faut qu'on sorte de ça et qu'on redise que le soin est essentiel. Alors, dans la gestion d'hôpital, c'est évidemment complexe parce que il y a ce que vous dites, il y a les médecins qui ont un projet médical, mais il y a aussi les paramédicaux, vous pas obligé, c'est les soignants, qui disent est-ce qu'on a le personnel suffisant, formé correctement, et avec un bel nombre de personnel par unité de soins, adapté à la charge de travail. Et pas seulement dans le tableau virtuel, tableau Excel, mais présent, réellement présent. Alors, et ensuite, il y a quand même les patients. Les patients, maintenant, ont acquis des droits, ils ont leur mot à dire, notamment sur l'évaluation, sur l'accueil, sur la continuité des soins, sur les rapports avec la ville. Donc, il faut organiser cela dans un partage. La gestion, évidemment, est là pour dire, voilà ce que la société nous donne comme moyens, comment nous les répartissons-nous? Et ça, c'est un rôle essentiel. Hein, mais là, on a dit, non, il faut des chefs d'entreprise. Il n'y a même pas à avoir besoin de culture santé publique pour être directeur d'un hôpital, puisque c'est une entreprise. Vous venez de chez Danone, finalement c'est une chaîne de production. Alors ça aboutit à ce qu'on sait. L'infirmière change de service d'un jour sur l'autre. Elle, à l'assistance publique, des fois elle commence à 6h. La même infirmière, 15 jours après, sera à 14h. Vous imaginez pour la vie de famille et vous imaginez pour le travail d'équipe. Donc on a dégradé avec une idée. On est dans une chaîne de production industrielle. Alors il y a une part de vrai là-dedans. La part de vrai, c'est les soins très techniques. Hein, le canal carpien qu'on fait en ambulatoire, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou la prothèse de hanche simple, bon, au fond, ça peut avoir des analogies avec le travail industriel. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup les cliniques privées qui se sont mis sur ce créneau-là avec efficacité. C'est pour ça qu'il faut définir complémentarité en garantissant l'accès aux soins aux tarifs remboursés par la sécurité sociale sur tout le territoire. Parce que ça, c'est le principe du service public, quel que soit le statut public, fonctionnaire ou privé, libéral, des professionnels.
Hein donc, pour terminer, André Grimaldi, vous écrivez dans un très beau chapitre que le médecin doit être à la fois un ingénieur, bon ça on comprend, un artisan et un artiste. Et expliquez-vous là-dessus.
Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a eu cette polémique sur le médecin ingénieur. Le médecin ingénieur, au condamné, il travaille sur des bases scientifiques, il évalue, il fait des hypothèses, il vérifie. Enfin, c'est tout le débat qu'on a sur les applications de la science. Le médecin artisan, c'est que la science ne dit pas tout, loin de la médecine, et souvent on fonctionne encore. Et là on progresse, hein, y compris avec l'intelligence artificielle, on progressera par tâtonnement. Hein. Aujourd'hui, on sait mal prédire si un malade va être répondeur à un traitement ou pas. Alors on saura mieux, on espère demain, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est on essaye, on corrige, on rectifie, hein, comme un artilleur ou un artisan. Et puis un artiste, c'est quelque part, un médecin est particulièrement dans la maladie chronique, c'est quelqu'un qui comprend que le patient, c'est aussi une psychologie, un mode de vie, un style de vie, une personnalité, une histoire. Hein, son histoire de vie. Alors, quand vous avez une maladie chronique, c'est pas seulement que vous avez une dysfonction d'un organe, c'est aussi que votre vie va changer, votre identité va être perturbée. Hein. Donc, ça, comprendre l'âme humaine, c'est indispensable.
Un artiste de la relation, écrivez-vous.
Un artiste de la relation, ce qu'on voit d'ailleurs, bon, comme dans le roman, comme dans la peinture ou autre, c'est que vous comprenez derrière qu'il y a une autre histoire, le vécu d'un autre que vous appropriez. Et donc ça, c'est particulier, donc c'est l'art de la relation. Un médecin devrait être tout médecin devrait être un spécialiste humain, donc là, c'est un problème majeur, c'est la formation en psychologie qui est dramatiquement faible des étudiants en médecine.
Voilà. Merci beaucoup André Grimaldi. Je rappelle ce livre que vous avez dirigé avec Frédéric Pierru, encore une fois très, très complet, qui offre un très vaste champ d'analyse et d'état des lieux sur le système de santé. Santé Urgence chez Odile Jacob.